Babylone. Nancy Ypsilantis.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la petite enfance dans le monde grec et romain, rituel autour de la naissance, alimentation et soins au bébé, pratiques funéraires et magiques sont autant d'étapes clés qui marquent la vie de nos ancêtres antiques et dont on ne savait presque rien jusqu'à ces dernières années. Le dernier numéro des dossiers d'archéologie de ce mois fait le point sur la question. Il a été dirigé par vous, une chercheuse de chez nous. Bonjour Véronique Dazan.
Bonjour.
Vous êtes archéologue. Vous enseignez à l'Université de Fribourg. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Laurence Di Félix, qui évidemment a été épatée, étonnée, séduite par ce dossier.
Oui, et puis du coup, ça m'a donné envie de lever le voile dans cette émission avec vous. Il faut dire que ces 15 dernières années, les recherches sur le mobilier funéraire, les découvertes archéologiques de cimetières, de foetus, de bébés en particulier, les progrès technologiques aussi sur l'analyse des ossements, ont permis de modifier considérablement le regard que l'on porte sur la naissance et la petite enfance dans le monde grec et romain. En particulier, d'observer autrement le lien qui existait entre le parent et l'enfant. On était sans doute allé un peu vite dans notre analyse, mais aussi sur les causes de mortalité, sur les modes d'alimentation du nourrisson. Et lorsqu'on s'y penche un peu, ce qui surprend le plus, c'est que l'on soit pendant si longtemps passé à côté de toutes ces traces. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Véronique Dazan ?
On peut dire que le développement de l'histoire de la naissance et de la petite enfance a suivi le chemin de l'histoire des femmes, puisque ce sont elles finalement les principales actrices de ce moment de la vie. Et le matériel funéraire dont vous avez parlé en témoigne. Dans les tombes des tout-petits, et là je prends jusqu'à la tranche des 0-6 ans, jusqu'à 6 ans, le matériel funéraire est principalement fait d'objets qui se réfèrent à la sphère féminine et qui ne désignent pas tant le sexe de l'enfant, mais son appartenance au domaine des femmes, au domaine des mères. Donc il y a ce premier point. Le deuxième, c'est que l'émergence du domaine a suivi aussi, pas simplement l'apparition, parce que les femmes étaient déjà présentes dans le monde académique, mais l'installation des femmes dans le monde académique, posant d'autres questions à un matériel bien connu ou allant chercher des informations moins évidentes à trouver.
Vous-même, vous êtes une pionnière de cette étude. Comment ça s'est passé, le démarrage? Ça y est, quoi, 10-15 ans, tout d'un coup, on se dit maintenant, on fait de ce domaine de la petite enfance antique un vrai champ de recherche.
C'est lié à une expérience personnelle, qui est l'expérience de la maternité, qui fait qu'on découvre combien ce temps de la vie est riche et plein de mille choses, mille émotions aussi. Et on se dit que les femmes d'autrefois ont dû les traverser aussi, avec le même échantillonnage aussi de situations qu'aujourd'hui, et quelles traces on en a. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, pendant longtemps plutôt, les chercheurs regardaient du côté des textes, et que les textes sont rares, c'est-à-dire qu'ils sont écrits plutôt par des hommes qui, eux, ne témoignent pas vraiment de ce vécu féminin, même si les hommes peuvent livrer des textes très émouvants. Dans les dossiers d'archéologie, vous trouverez par exemple cet extrait de Frontin, qui est un proche de Marc Aurèle, et qui dit qu'il a perdu 5 enfants l'un après l'autre. Donc il a eu 5 nouveau-nés, et à chaque fois qu'un enfant mourait, un autre naissait. Donc il a eu 5 enfants l'un après l'autre et dit aujourd'hui tous sont morts, il n'y a plus personne pour me consoler, il reste seul. Donc un témoignage très émouvant qui montre bien que les hommes ne sont pas insensibles, mais le témoignage de Frontin est tout à fait exceptionnel. Normalement, les hommes ne parlent pas vraiment de ces choses-là. Et très longtemps, on a pris en fait au premier degré des textes comme ceux de Cicéron qui dit qu'un enfant au berceau, on ne le pleure même pas, alors qu'en fait, on peut découvrir d'autres choses en explorant les textes autrement et surtout en regardant du côté de l'archéologie.
Parce qu'avant une semaine, il n'existe pas pour Cicéron. Il n'a pas d'âme.
C'est ce qu'on a dit très longtemps, mais qui n'est pas le cas. Et il n'a peut-être pas d'existence sociale, dans le sens où une semaine après la naissance, que ce soit en Grèce ou à Rome, c'est le père qui prend sa place. C'est le père qui donne un nom, qui inscrit l'enfant dans son genos ou dans sa gens à Rome, par l'inscription du nom. Mais en fait, dès la naissance, se déroulent toutes sortes de choses. On va en parler, les rites de naissance. Et c'est un temps très fort occupé par les femmes.
On a beaucoup dit aussi ou imaginé que les antiques ne s'attachaient pas aux enfants simplement parce qu'il y avait une très forte mortalité. Elle s'élève à combien cette mortalité? On arrive à la chiffrer? Combien d'enfants meurent dans ces tout premiers jours de vie?
C'est très difficile à estimer, bien sûr. On a des estimations qui sont construites à partir des données de l'époque moderne, des sociétés pré-industrielles, où un enfant sur 4 meurt la première année et 1 sur 2 arrive à l'âge adulte. C'est sans doute ce qui a dû se passer dans l'Antiquité. Si vous regardez par exemple les stèles funéraires romaines, gallo-romaines, la famille est pratiquement la famille moderne, c'est-à-dire papa, maman, un ou deux enfants, et pas plus. Donc ces familles nombreuses, on ne les voit pas, parce que ces enfants mouraient très tôt.
Et donc, on imaginait, il existe des textes qui disent que le deuil doit être proportionnel à l'âge du défunt. Donc, il y a aussi cette espèce de mise à distance de l'enfant en se disant, il peut toujours mourir.
On a interprété comme mise à distance beaucoup de choses, notamment ces textes juridiques qui existent, effectivement, qui disent à l'époque romaine qu'on ne peut pleurer un enfant qu'à partir de 3 ans, et cette personne ensuite que le nombre de jours, autant de jours qu'il a vécu d'années. Donc, on arrive au maximum à 10 mois de deuil pour quelqu'un de très âgé. Et on en a conclu que l'enfant tout petit, si on ne le pleure pas avant 3 ans, donc c'est qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de présence vraiment affective, de lien affectif. Et bien sûr, c'est tout à fait autre chose qu'on a pu découvrir aujourd'hui.
Alors, à l'occasion de la parution de ce numéro sur l'Antiquité, la petite enfance dans le monde grec et romain, plein de contributions, dont celle de Maria Mikalaki-Kolia, que vous avez rencontrée, Laurence. Elle a signé un article sur les découvertes faites à l'île d'Astypalée, dans le Dodécanès, c'est pas loin de Kos, en Grèce.
Exactement, elle était à Fribourg à l'occasion d'une journée d'études que vous avez organisée, Véronique Dazen, à la fin du mois de mars. Et elle nous raconte d'abord comment elle a découvert ce qui s'avère être aujourd'hui le plus grand cimetière de fœtus et de nourrissons du monde.
Vous savez, malheureusement ou heureusement, en Grèce, partout, il y a des antiquités. Alors, à ce site, qui est en dehors de l'agglomération moderne, et on a fait comme ça, par hasard et par curiosité. Et quand même, on a trouvé un jour plus que 30-40 vases. Un jour, à un moment. Alors, on a fait les premières analyses et ces vases contenaient des petits os. Et on a envoyé à l'Université d'Athènes au secteur d'anthropologie et le professeur d'anthropologie nous a dit qu'il s'agissait des bébés. Alors, la fouille a commencé et ça dure encore, ça fait 15 ans que ça a commencé, c'était en 95-96. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est exactement? En ce moment, avec les excavations qui se sont faites cet été, il y a presque 3000 maintenant de vases, mais des bébés, il y a plus, parce que quelques vases contenaient plus qu'un bébé, contenaient 2, s'il y a, disons, des jumeaux, ou des fois, il peut y avoir plus. Ça, on ne peut pas l'expliquer encore, parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a eu une grande utilité du site depuis le milieu du 8e siècle. Mais avec une trouvaille très exceptionnelle, il s'agit d'une fosse que l'on a trouvée sur un des terrains, une grande fosse qui avait une profondeur. Quand on a fait les fouilles, on a trouvé une cérémonie qui s'était passée à l'époque, en grec on dit exarnismi, c'est-à-dire les cérémonies qui se passent dans une acropole. Et peut-être il s'agit d'une cérémonie qui montre le début de l'utilisation du site. Alors, parmi ces tessons qui étaient brûlés, parmi les cendres, des coquillages d'enfants, qui peut-être étaient des amulettes ou peut-être des offrandes, il y avait des vases cassés, et un de ces vases remonte à 850, à peu près, avant Jésus-Christ. Alors peut-être ceci montre le début de la fondation de la capitale. Parce qu'avant la capitale, à l'époque mycénienne, se trouvait ailleurs, dans un autre endroit de la ville.
3000 vases et plus de 3000 bébés, c'est quand même énorme. Est-ce qu'on arrive à savoir si tous ces petits-enfants qui sont enterrés là venaient de là, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on a apporté de loin ces petits bébés pour être enterrés dans ce site?
C'est la grande question. Et nous sommes en collaboration avec l'Institut d'anthropologie de l'Université de Londres depuis 2000. Et les anthropologues, jusqu'à présent, ils ont ouvert et étudié les squelettes de 1100 bébés jusqu'à présent. C'est très difficile à dire si les bébés sont d'Astypalée ou ils viennent d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que les vases arrivent de partout.
Si on imagine que ces bébés ne venaient pas tous d'Astypalée, mais qu'ils venaient peut-être d'ailleurs, quelle thèse on pourrait élaborer? Pourquoi est-ce qu'on aurait rassemblé tous ces petits bébés dans ce lieu-là? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
Nous avons à ce palais deux inscriptions qui sont en rapport avec les divinités de la naissance et de l'accouchement. Alors, une inscription est offerte par un homme à Artemis, le Kia, qui est en rapport avec l'accouchement. Artemis elle-même est en rapport parce que quand elle est née, après, elle a aidé sa mère d'accoucher Apollon. Et l'autre inscription, il est question d'une divinité que je crois que les gens ne connaissent pas très bien. Elle s'appelle Eleitheia et ça veut dire « je viens au monde ». Cette divinité, Iliti, il y a beaucoup d'orthographes, est en rapport avec Artemis. Alors, on a une inscription d'Artemis et deux inscriptions d'Iliti. Alors, personnellement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un lieu de culte. Évidemment, là, c'est l'endroit où on a enterré les bébés, et peut-être les bébés pourraient être sous la protection de cette divinité de la naissance et de l'accouchement.
Dans ce cas-là, ça voudrait dire que des gens ont été prêts à prendre le bateau avec leur bébé mort pour l'amener dans cette île. Ça signifie que l'attachement avec le nouveau-né, peut-être avec l'enfant qui n'était même pas arrivé jusqu'à terme, ça veut dire que cet attachement était très fort si on prend ces petits bébés morts sous le bras.
Et là, c'est une grande question. Tout d'abord, imaginez dans la mer grecque, avec le temps, de prendre un vase à la main et de faire tout ce voyage. C'est bizarre. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Je ne peux pas vous dire tout parce que chaque moment, il y a une idée qui vient. Mais peut-être c'est un rite qui vient dès la fondation. D'imaginer que c'est un culte qui vient d'ailleurs. Imaginez que c'était des Phéniciens, qu'entre-temps, il y a 20, 25 ans, 30 ans auparavant, on pensait qu'il y a eu le sacrifice d'un enfant à leur divinité. Je ne sais pas, c'est difficile. Il faut continuer la fouille, avoir la chance de trouver d'autres trouvailles très, très intéressantes, très importantes. On a encore beaucoup de vases à ouvrir. Et je pense qu'on a pas mal à découvrir aussi. Et peut-être maintenant, il faut être beaucoup plus attentif parce que ça a commencé comme une fouille de sauvetage et c'est une fouille systématique.
Merci à Maria Michalak-Ecolia qui nous racontait la découverte de ce grand cimetière de bébés d'Astipalé. Véronique Dazan, on parle de mort ou de sacrifice ?
Il y a beaucoup d'hypothèses autour d'Astipalé. Une des hypothèses, elles ont été évoquées par Maria Michalaki, c'est que les enfants seraient des enfants du lieu et qu'à l'époque géométrique, donc vers 850, cette communauté décide de créer un espace funéraire spécifique pour les plus petits. L'autre hypothèse serait que ces enfants soient venus de toute la Méditerranée, comme semble en témoigner le matériel, c'est-à-dire plus précisément les pots qui contiennent ces enfants. Des pots qui viennent aussi bien de Phénicie que de toute la Méditerranée antique. Alors, sacrifice d'enfants, vous voulez dire infanticide. C'est une des hypothèses, mais qui a passé très vite au sujet de l'Astipalé, puisqu'en fait, chaque enfant fait l'objet d'un traitement funéraire, comme on le dit, simple, mais très clair. C'est-à-dire, il y a un soin, l'enfant est découpé, l'enfant est déposé dans cet amphore. Dans le cas d'infanticide, on est toujours sur les traces, à la recherche de traces de ces infanticides antiques. Ils sont très difficiles à définir. Il n'est pas impossible que dans le lot des enfants d'Astipalé, certains aient été éliminés. Il faut savoir que dans l'Antiquité, le père a droit de vie et de mort sur l'enfant qui lui naît. Précisément dans cette première semaine avant la dation du nom, il est tout à fait libre d'en disposer. C'est une sorte de droit coutumier qui ne va être abrogé qu'à la fin de l'Antiquité, vers 370, par un empereur chrétien qui décide que l'abandon, comme l'infanticide, sont proscrits. Et donc on retire ce droit au père de famille. Donc c'est dire combien ça s'inscrit dans une très très longue durée. D'infanticide, on en a aussi parlé, par exemple, pour les Tophètes, les Tophètes de Carthage, hein, le fameux Tophète de Salammbô, dont on parle aussi dans les numéros des dossiers par Hélène Benichou-Safar, qui est une des grandes spécialistes, qui a revisité le dossier. Et là aussi, on a longtemps dit, on trouve beaucoup, alors là, c'est des incinérations d'enfants dans les Tophètes de Carthage. Est-ce que ce sont des enfants qui ont été sacrifiés? C'est ce que des auteurs anciens disent, mais ce sont toujours des auteurs étrangers à Carthage qui le disent, donc projetant une image très négative sur des gens qui ne connaissent pas bien. Et en réalité, le dossier repris par Hélène Benichou montre qu'il s'agit au contraire de placer sous la protection de Baal Saturne les enfants morts prématurément et pas du tout d'infanticide. Et on en revient à cette question de mortalité infantile. Est-ce qu'on pratiquait vraiment l'abandon d'enfants d'un cœur si léger quand la mortalité est si forte? L'idée n'a pas effleuré Frontin qui voit partir tous ces petits.
Il y a un puits aussi dans lequel on a retrouvé de nombreux squelettes d'enfants. Et là, la thèse de l'infanticide est plus claire?
Tout à fait. Je tenais beaucoup à avoir cet article dans les dossiers parce que c'est une des rares traces réelles d'abandon, je dirais, d'enfants. Alors, infanticide, on peut décliner ça de différentes manières puisque l'abandon est une forme d'infanticide passive. Dans le puits d'Athènes, donc c'est une trouvaille des années 1930, au centre même d'Athènes, donc sur l'Agora, un puits abandonné à l'époque hellénistique recèle 450 enfants et 150 chiens, il faut bien ajouter aussi. Donc un ensemble très curieux, très étrange, qui n'a jamais été véritablement analysé. C'est sous presse maintenant, donc l'analyse scientifique proprement dite détaillée est sous presse, et on a la chance d'avoir dans les dossiers les premiers éléments de réponse. Elle découvre que ces enfants sont en partie atteints, soit alors qu'il y a une petite série de becs de lièvre, ou de fissures palatiales, donc des enfants qui à la naissance sont jugés inaptes à vivre, donc des enfants qui effectivement sont tués, sont peut-être déposés dans le puits et meurent, parce qu'on n'aime pas tuer de manière directe, on préfère abandonner et l'enfant s'éteint. Et d'autre part, des enfants atteints d'infections, de méningite. Voilà. Et donc, qui laissent des traces sur le crâne, sur le développement crânien, et une grande quantité. Donc c'est une des causes de mortalité infantile à l'époque hellénistique qu'on a découverte ici.
Mais pourquoi les chiens?
Ah, les chiens. Les chiens reviennent assez souvent. C'est les proches compagnons des enfants. Hein. C'est leur gardien, c'est leur premier jouet aussi. En l'occurrence, ces chiens ne sont pas jeunes. Elles nous disent qu'ils sont plutôt âgés. Ils ont bien roulé leur bosse. Donc, c'est pas des petits chiots qui auraient été les petits compagnons de jeu. Elles pensent plutôt à des rites purificatoires. Donc, liés à l'impureté de s'être précisément débarrassé, entre guillemets, d'un petit, qui montrent bien de nouveau qu'on ne le fait pas d'un cœur léger, que ça c'est pas quelque chose qui se fait sans réfléchir, sans scrupules et sans soin.
Tout à l'heure, dans l'interview de Maria Michelaki Collia, elle nous disait qu'il fallait encore chercher des indices pour comprendre ce lieu plein de mystères qu'est le grand cimetière d'Astipalé, mais c'est le cas pour tous ces lieux où on retrouve des ossements d'enfants. Et il se trouve qu'on y retrouve aussi des objets, pas que des ossements, et par exemple des amulettes assez étranges, comme un bez d'Astipalé, enfin c'est le nom qu'il porte maintenant. Ça par exemple, qu'est-ce que ça nous dit?
Alors c'est un objet tout à fait exceptionnel parce qu'à Astipalé, comme dans la plupart des sépultures de tout petits, qui sont d'ordinaire inhumées, il n'y a pas de crémation, il n'y a pas d'objet. Éventuellement un petit peu de vaisselle qui témoigne d'un rite funéraire au moment du dépôt de l'amphore, mais pas d'objet personnel. Et ici, il y en a une, donc une petite amulette. Alors elle a l'air de rien du tout, c'est un petit pendentif en faïence qui représente le visage d'un dieu grimaçant. Et il grimace pourquoi? Parce qu'il écarte le mauvais œil. Alors c'est un objet qui a pu servir à l'enfant, qui est un des plus âgés d'ailleurs de la nécropole. Il a 1 an et demi, donc ce n'est pas un hasard. Donc on retrouve ce schéma, les tout petits n'ont pas d'objet. Les plus grands commencent à en avoir. On investit dans ces enfants parce qu'on commence à croire aussi en leur survie. Donc ça peut être un pendentif qu'il a eu de son vivant. Ça peut être aussi un objet qu'on lui a donné pour son voyage dans la mort. Puisque le dieu Bès, qui est un dieu égyptien, d'origine égyptienne, mais qui voyage en Grèce à l'époque orientalisante, donc vers 650, protège aussi dans l'au-delà. Et alors c'est intéressant parce que ça nous ouvre la porte vers des croyances en la vie après la mort des tout-petits, qui est encore un autre sujet. La question que ça ouvre aussi, c'est est-ce que cet objet est venu avec des personnes qui se sont déplacées avec leur enfant d'ailleurs ? C'est une des questions qu'on a pour Asti Palais. Est-ce que c'est une simple nécropole locale ? C'est fort possible, parce que 3000 enfants divisés par 8 siècles, donc de 850 à l'époque romaine, ça en fait très peu par année, ça en fait une trentaine par année, si on a tout découvert. D'un autre côté, d'abord, il peut y avoir beaucoup plus d'amphores, et de l'autre, les amphores elles-mêmes ont des provenances donc très larges. Et c'est là où les nouvelles technologies pourront nous apporter des informations, car il est possible d'analyser les ossements et à l'aide des ossements, savoir si la maman a bu de l'eau d'Asti Palais, a consommé de l'eau d'Asti Palais, ou d'ailleurs. Donc si la mère vient d'ailleurs, donc l'enfant vient d'ailleurs aussi.
C'est un monde qui s'ouvre grâce à ces nouvelles technologies, cette possibilité de lecture. Laurence Di Félix, il existe des cimetières de bébés bien plus proches de chez nous, à Alésia, près de Dijon, dont on connaît l'existence en fait depuis très longtemps.
Oui, on en connaît l'existence, mais on s'y est peut-être pas assez penché, on n'en a pas flairé tous les indices. Et c'est une des doctorantes que vous avez à Fribourg, Véronique Dazen, qui a eu envie d'y remettre son nez à Alésia. Elle s'appelle Sandra Yegui.
Alors, cette fouille particulière a débuté dans les années 50 et il faut dire que c'est une fouille qui a été faite par un préhistorien, par l'abbé Joly. Et cette fouille nous a livré certains indices. L'abbé Joly parle lui-même d'un cimetière de bébés. Et c'est à cause de cette notion, de cette expression de cimetière de bébés que, à notre époque, où l'on parle finalement énormément des enfants, surtout en archéologie, où on les trouve maintenant partout, qu'il était nécessaire finalement de faire le point sur ce qu'était véritablement ce cimetière de bébés.
Alors vous êtes partie avec votre petite truelle et vous êtes allée en quête d'Alésia, la falaise et le cimetière des bébés. Comment ça se passe quand on cherche comme ça un lieu qui a été fouillé mais qui a disparu depuis?
Alors, on a peut-être une ou deux pierres qui pouvaient suggérer l'emplacement d'une tombe, mais rien de plus. Donc, après, c'est vraiment une sorte d'imagination. Et l'idéal, maintenant, ce serait de faire des fouilles pour retrouver, effectivement, la suite de ce cimetière de bébés et pour être sûr de son homogénéité. Non, pas vraiment, puisqu'il y a aussi une tombe à incinération qui était probablement celle d'un adolescent ou d'un jeune adulte. On ne peut pas trancher. L'incinération était effectivement dans un vase qui servait d'urne, ce qui est très courant dans le monde romain. Et les enfants se trouvaient, d'après aussi les descriptions de l'abbé Joly, dans des espèces de fosses qui étaient murées par des empierrements. Donc les vases qui ont été trouvés souvent par deux dans ces différentes tombes sont des vases qui sont plutôt à comprendre comme des offrandes que véritablement comme le contenant du corps. Le corps n'aurait jamais passé dans ces vases qui sont finalement des vases miniatures, plutôt genre cruche, où on a aussi des petites coupelles, on a un gobelet, ce qui est tout à fait caractéristique dans les tombes de nouveau-nés de ces époques-là.
Gobelets, coupelles, est-ce qu'il y a des amulettes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui accompagnaient ces ossements?
Alors, la seule chose qui accompagne ces petits individus, hormis les offrandes sous forme de céramique, sont un anneau qui a été interprété comme un anneau de l'ange, donc qui retenait probablement ces bandelettes que l'on tressait autour de l'enfant, et deux monnaies ont été retrouvées qui se trouvaient également dans ce cimetière d'enfants. On sait par l'abbé Joly qu'il y avait une troisième monnaie. Donc souvent aussi dans d'autres nécropoles d'enfants, ces monnaies sont même laissées dans la main de l'enfant.
On voit tout ça comme un soin assez attentif quand même à ces bébés qu'on allait enterrer. Est-ce qu'on peut en déduire une forme d'attachement particulier entre l'adulte et l'enfant dans cette Gaule romaine d'Alésia ?
Effectivement, je pense que l'on peut parler d'un attachement qui est probablement le même que l'attachement que l'on peut avoir aujourd'hui pour ses propres enfants. C'est vraiment frappant parce qu'on peut dire aussi que certains adultes n'ont pas des tombes qui sont si riches en offrandes à cette même époque. Et si je cite un des cas qui a été retrouvé à Avenches notamment, près de l'enceinte du sanctuaire de la Grange des Dîmes, qui est un temple voué au dieu Mercure. Et ce petit enfant, qui était un périnatal, était déposé directement contre l'enceinte. Il avait aussi des offrandes sous forme de récipients en céramique. mystique. Donc cela montre que l'on cherche la divinité, à se rapprocher de la divinité, ou à plutôt à rapprocher vraiment l'enfant de cette divinité. Et notamment, on le voit aussi dans de nombreuses tombes, comme à Argentomagus, où l'on place la divinité véritablement dans la tombe, plutôt que l'enfant à côté du sanctuaire. C'est pour ça qu'un lien avec le sanctuaire, comme à Alésia, ne peut être ignoré, selon moi. Mais c'est encore quelque chose de très débattu à l'heure actuelle.
Merci à Sandra Yegi, doctorante à l'Université de Fribourg. Aujourd'hui, dans Babylone, la petite enfance dans le monde grec et romain, c'est le dernier dossier d'archéologie. C'est vous, Véronique Dazen, qui l'avez dirigé, qui avez contribué. Est-ce que ces cimetières consacrés aux bébés, ces nécropoles, sont courantes?
Alors pendant très longtemps, on ne les a pas trouvés, on n'a pas été conscient de leur existence. On avait constaté une absence, une sous-représentation d'une certaine classe d'âge dans les nécropoles traditionnelles, communautaires. Et cette classe d'âge, c'est les 0-6 mois, voire 0-1 an, mais sans réaliser qu'ils étaient ailleurs. Et ça avait contribué à cette idée reçue que l'enfant tout petit ne comptait pas. Et petit à petit, on a réalisé qu'il se trouvait ailleurs, dans des espaces funéraires spécifiques, qui ne sont pas simplement des nécropoles comme à Astypalée, qui est tout à fait exceptionnel. Ça peut être un endroit réservé d'une nécropole communautaire, ou pour les tout petits, ça peut être la maison elle-même, dans la domus, dans la villa elle-même. Alors, soit à l'intérieur de la villa, ou d'un espace artisanal, par exemple, comme à Salel d'Aude, et c'est une découverte qui avait lancé les recherches. C'était en 1995 que Fanette Laubenheimer et toute son équipe fouillent un espace artisanal de potiers. On pense que ce sont des femmes qui travaillent là, qui font la poterie, et on trouve une dizaine d'enfants à l'intérieur de l'espace artisanal, sous le sol, mais des tout petits, hein, des zéro, deux mois, donc restant à proximité des femmes. Et depuis qu'on a pris conscience de la possible présence de ces sépultures dans les espaces domestiques, on n'arrête plus d'en trouver. Donc on les trouve, on en a trouvé à Vallon, dans la Broye fribourgeoise, et ailleurs. Ces découvertes se multiplient et maintenant on est très attentif. Donc il y a tout un problème de regard posé, aussi comme archéologue, sur ces restes qui ne sont pas ceux de poulets, mais qui peuvent être ceux de bébés quand on est dans une maison ou aux abords d'une maison, aux abords aussi de l'enceinte d'une villa romaine.
Sandra Yegi nous parlait du cas d'Alésia. On en est où dans les fouilles d'Alésia? Parce que là, en fait, elle a eu accès à ce qui a été fouillé il y a très longtemps. Mais pour l'instant, le cimetière des bébés, il est de nouveau couvert de végétation.
Il est couvert de végétation, mais je pense que ce n'est pas pour très longtemps. L'important était de retrouver où il se situait. En attendant, des fouilles menées par Olivier de Casanov ont lieu sur le plateau où il y a ce sanctuaire d'Apollon Mauritagus. Et l'année dernière, en reprenant des fouilles anciennes, Olivier de Casanov a découvert autour de ce nymphé où se trouve une divinité du genre Igy-Sirona, donc une divinité féminine protectrice, des statues d'emmaillotées, ce qui viendrait plutôt confirmer l'idée qu'il y a là un sanctuaire qui a aussi comme spécialité le soin des tout-petits. Donc des tout-petits qu'on vient apporter, amener, en espérant que la divinité les protège, les soigne, ou bien morts pour les placer sous sa protection, morts.
On continue à les protéger en les mettant dans un pot.
Oui, tout à fait. Et le symbolisme du pot doit aussi être visité. Ça, c'est un bel exemple de comment se construisent les idées reçues et comment on peut les déconstruire. Très longtemps, on a dit qu'on mettait les enfants dans des amphores domestiques. C'était des réemplois parce qu'on choisissait un contenant peu coûteux. Et que c'était bien justement une affaire des femmes et qu'elles prenaient finalement le premier pot qui avait dans la cuisine, un peu vieux, et que, ma foi, voilà, elles mettaient l'enfant dedans. En réalité, on peut aborder la question autrement et se dire que choisir un objet domestique n'est pas anodin. En plus, il a toute une découpe, il y a une sorte de césarienne inversée qui est pratiquée sur ce pot. On découpe sa panse, hein, qui est comme un ventre, et on place l'enfant en mettant sa tête près du col, pas toujours, mais très souvent. Et d'autre part, il y a l'idée aussi que l'enfant retrouve un milieu nourricier, le milieu domestique nourricier, qui était celui du ventre maternel, celui de la maison, de la maisonnée. Et on peut même encore aller plus loin, puisque ce pot est en argile cuite. Or, dans les textes médicaux, il y a toutes sortes de métaphores qui sont filées sur la façon dont l'enfant cuit dans le ventre maternel comme dans un four. Et là, en somme, il rejoint un autre objet cuit, mais bien cuit, tandis que lui n'a pas fini de cuire, puisqu'il est, c'est peut-être un fœtus avorté, une fausse couche, et donc on le met dans ce récipient-là, mais qui fait le lien, en somme, entre cette terre-mère qui a produit l'argile et le monde social, qui est celui des mères qui utilisent le pot.
Le manque de connaissances, on le comprend, est souvent lié à un manque de perspicacité en matière d'interprétation des objets, que ce soit ces pots, mais que ce soit aussi d'autres objets présents dans les tombes, des objets qui sont souvent connus, mais qu'on laisse de côté parce qu'on n'en comprend pas le sens. Il y avait à la journée d'études de l'Université de Fribourg que vous avez organisée à la fin du mois de mars, Véronique Dazen, une chercheuse tout à fait étonnante. Elle s'appelle Irini Papaikonomou. Elle est docteure en archéologie et anthropologue de l'enfance ancienne. C'est joli, hein? Et elle s'est penchée sur les représentation de la grossesse et de la naissance, et sur certains petits objets jusque-là complètement incompréhensibles.
Alors justement, c'est venu par hasard si vous voulez, mais il faut avoir déjà l'œil exercé dans la lecture de l'image, et c'est ce qu'on appelle l'anthropologie de l'image, et c'est en travaillant sur l'image et sur les vases que j'ai transposé cette méthode dans la lecture des objets dans les sépultures des enfants sur lesquels je travaille et les jeunes filles qui mettent des enfants au monde, et aussi sur la lecture des figurines. Un jour, j'ai vu à l'Artémision de Tassos, avec les collègues de Lille, une petite figue qui avait sur son sommet, non pas un bout normal pour un fruit, mais quelque chose qui était comme un petit tuyau qui me rappelait une autre figurine qui sortait d'une tombe que j'avais à traiter. C'était plutôt un ensemble, si vous voulez, de petites figurines posées sur une base contenant une petite poupée entourée de petits objets. Alors, un des petits objets le plus frappant était une sorte de baluchon, un baluchon qui rappelait une figue. Donc, j'ai pu rapprocher les deux objets et les deux me donnaient la même image. Une image qui représentait la figue, mais si on regardait en même temps les gâteaux de l'Antiquité, ce gâteau pouvait être le gâteau plakous. Or, en grec, le terme plakous est le terme pour dire le placenta en grec moderne. D'où j'ai eu l'idée de regarder comment était un placenta de l'Antiquité. Et j'ai fait l'expérience grâce à des collègues qui m'ont aidé dans le domaine médical et j'ai vu des vrais placentas, j'ai pu les photographier et j'ai vu après, en cherchant dans les textes, dans les sources écrites, les descriptions donc, du placenta qui ressemblaient à des gâteaux. Donc l'aspect du placenta était le même que la figue avec les veines, comme les petits sillons qui descendent donc, du sommet de la figue vers le bas, les veines descendent du cordon ombilical qui est au sommet de la face fœtale du placenta vers la face maternelle. Et c'est pratiquement la même image. Donc l'artisan a dû jouer sur les trois niveaux déjà. Figue, le gâteau ancien appelé plakous et le placenta lui-même. Ça serait une façon pour les anciens d'offrir aux divinités, parce que le contexte de trouvaille de la figue est celui d'un sanctuaire de divinités féminines qui aide la procréation, c'est Déméter. Donc, une façon de lui offrir quelque chose qui concerne les naissances sans porter la notion de souillure. Et c'est important parce qu'on ne peut pas, tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à l'intérieur du corps, est connoté par l'impureté en Grèce ancienne. Donc on ne pourrait pas offrir une partie du corps. Il fallait l'offrir dans son sens symbolique de fertilité, de fécondité, de nouvelle vie, et partager donc ce fruit du corps, ce double de l'enfant, avec la divinité, en souhaitant peut-être d'avoir en retour d'autres enfants dans la famille.
Est-ce qu'on sait concrètement ce que les anciens, les Grecs anciens, faisaient des placentas? Évidemment, on n'a pas de marque archéologique du placenta parce que c'est organique et ça disparaît, mais est-ce qu'on a des sources pour nous éclairer là-dessus?
Les sources médicales parlent beaucoup du moment de l'accouchement, ce sont les seules sources que nous avons. Elles nous parlent énormément du cordon ombilical, mais elles ne parlent point du placenta. Elles parlent seulement comment est-ce qu'on arrive à sortir le placenta du corps. Maintenant, on sait par des parallèles anthropologiques quels sont les traitements donc, qu'on conserve au placenta dans différentes cultures. Et c'est sûr qu'en Grèce, on ne devait pas négliger cette partie du corps. Mais en tirant évidemment toutes les conséquences de cette règle de souillure, c'est-à-dire en la respectant. Donc on pense que comme un enfant mort fait l'objet également de cette souillure, mais on le protège, on aurait pu protéger le placenta. Et on commence à penser que le placenta aurait pu être enterré dans des vases où l'on trouve aucun squelette d'enfant, aucune trace d'enfant, parmi d'autres vases dans lesquels on trouve des nouveau-nés et des fœtus. C'est une possibilité. On n'a pas les preuves. On sait seulement qu'on peut avoir ces preuves, parce qu'en Allemagne, cela a été fait, à travers les œstrogènes. C'est la seule façon d'arriver à avoir une trace du placenta. Il y a une forte concentration d'œstrogènes dans le placenta, et c'est ce qui reste, d'après les Allemands, dans la terre qui remplit les vases, parce qu'il y a de la terre qui entre dans ces vases. Alors, si un jour les dépôts dans des endroits bien gardés en Grèce nous permettent d'identifier une concentration d'œstrogènes sans l'abîmer, on sera heureux de comprendre.
Et on pourrait trouver dans des nécropoles de bébés des vases vides qui seraient en fait le double, le miroir de ces bébés, mais qui seraient des enterrements de placenta dans des vases.
On peut les trouver, à mon avis, tant dans des vases qui sont entièrement vides, comme on en a trouvé un peu partout à Stipale, mais ailleurs aussi, que dans les vases qui contiennent des fœtus, parce qu'on n'est pas sûr que le fœtus était délié du placenta. On sait que jusqu'au XVIIe siècle, on attendait la sortie du placenta pour couper le cordon ombilical. Dans ce cas-là, l'enfant aurait pu être enterré avec son propre placenta dans le même vase. Et on sait qu'il y a de la place qui reste dans les vases que nous étudions.
Dans Babylone, aujourd'hui, nous explorons la petite enfance dans le monde grec et romain. Véronique Dazan, on a vu ces objets qui peuvent accompagner, ces rites qui peuvent accompagner la mort du bébé. Est-ce qu'il y a d'autres objets symboliques qui sont importants?
Alors, Irini Papaïkonomou, dans ce volume, explore aussi la présence des astragales dans les tombes de jeunes femmes, ce qui ouvre le dossier des femmes mortes en couche ou mortes enceintes. Le problème étant qu'une femme morte enceinte, on arrive à l'identifier, la femme morte en couche un peu moins si l'enfant n'est pas présent à ses côtés. Et on sait qu'il existait toutes sortes de rites propitiatoires pour s'assurer une bonne grossesse, un heureux accouchement. Et l'un d'eux, grâce à elle, est mis en avant, c'est le cadeau d'un astragale, d'une bague astragale, qui va servir à donner un bon sort.
Astragale, il faut juste qu'on précise ce que c'est.
Voilà, un astragale, c'est un osselet. Un osselet qui sert de dé pour jouer. Il peut servir de dé pour jouer, c'est le cas en Grèce ancienne aussi. Mais il sert aussi à tirer des oracles. Et c'est cette dimension oraculaire qui semble être plus forte quand il s'agit de femmes, qui n'en ont pas 10 ou 20 ou 30 comme les hommes, mais qui n'en ont qu'un, mais qui sert à sans doute à définir son sort.
Et tout ça pourrait nous mettre sur la voie de plusieurs pistes de squelette mort, femme, jeune, c'est un peu dans tous les sens ce que je dis, qui serait morte en couche alors que jusqu'à nouvel ordre, on pensait que c'était simplement des squelettes d'adolescentes.
Voilà. D'autant plus qu'on sait que dans l'Antiquité, les femmes sont mariées très jeunes pour toutes sortes de raisons. Et donc la mortalité au moment de l'accouchement est très élevée. On en a retrouvé de ces femmes alors enceintes, et ce sont des découvertes aussi très importantes pour l'archéologie. Il y a la fameuse Rich Lady de l'Agora d'Athènes, c'est une découverte des années 40. Et là aussi, il y a eu une relecture toute récente. En 2000, un anthropologue reprend les restes de cette femme. C'était les restes donc d'une femme inhumée vers 850 avant Jésus-Christ, donc ce qu'on appelle l'époque géométrique, et qui était appelée la tombe de la Rich Lady parce que c'était une tombe particulièrement riche, avec des bijoux, de la vaisselle, enfin, un luxe absolument incroyable. Et on avait dit, bon, bah, c'est une femme qui appartenait à l'élite de l'époque, d'où cette tombe extraordinaire. Et en réalité, en reprenant ses restes, et c'est notamment Maria Liston, John Papadopoulos, Maria Liston qui contribue aussi au dossier d'archéologie avec le Puy d'Athènes, qui reprend tout ça, qui réalise qu'en fait, la femme était enceinte, que parmi les ossements, il y a ceux d'un fœtus qui aurait brûlé comme le corps de sa mère s'il avait été né et déposé à côté d'elle. Donc, il était protégé par le corps de sa mère. C'est donc non seulement une femme enceinte, mais peut-être même une femme morte en accouchant, qu'on a célébrée de cette manière-là, de manière vraiment extraordinaire. Elle avait une trentaine d'années, donc ce qui était tard, pour une première naissance, c'était une primipare, donc un enfant très attendu, un héritier peut-être très attendu, d'où le luxe de la tombe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les honneurs rendus à une femme enceinte et les honneurs rendus à un enfant à venir.
Est-ce qu'on sait comment se passaient ces moments de la naissance? Est-ce qu'à travers ces découvertes archéologiques, on arrive à savoir plus de choses sur ce qui se passait pour les vivants, pour ceux qui survivaient? Vous nous avez dit tout à l'heure, on donne le prénom à l'enfant à l'âge de 7 jours. Il se passe quoi entre le moment de la naissance d'un enfant et puis ces fameux 7 jours où il entre dans la communauté?
Alors très longtemps, on a dit justement que l'enfant ne commençait à exister vraiment, n'avait une identité qu'au bout de ces 7 à 10 jours où on lui donne un nom. En réalité, si on regarde de plus près les sources, et notamment iconographiques, la c'est l'iconographie qui nous apporte des clés associées au texte. Comme toujours, il faut croiser les différentes sources. On se rend compte qu'en fait, il existe un rite à la naissance. Et là, je crois avoir mis la main sur un rite de naissance à Rome, au moment même de la naissance. Très longtemps, on a dit que la vie de l'enfant dépendait d'un geste accompli par le père, le fameux pater familias, qui devait élever l'enfant de terre. Donc l'enfant aurait été déposé à terre devant lui, il l'aurait élevé et ainsi annoncé sa légitimité et donc son droit de vivre. En réalité, quand on examine les sources, on se rend compte que du point de vue de la formule levare infantem, il s'agit d'une formule métaphorique, que le père n'était jamais présent, évidemment, au moment de l'accouchement et pas du tout présent non plus pour l'élever. Les textes juridiques n'en parlent pas du tout. Par contre, il y a une autre actrice qui est là et qui élève l'enfant et qui accomplit les gestes décisifs, c'est la sage-femme. Donc, en faisant l'économie de ce cérémonial paternel, puisqu'on a pu le démontrer qu'il n'existait pas, on a fait l'économie aussi d'un vrai rite qui est accompli par la sage-femme. Et en fait, là, c'est l'iconographie, c'est entre autres une série de gemmes, donc de pierres gravées de l'époque romaine qui en témoignent. On voit les trois parcs debout devant un enfant qui est allongé par terre, et sur l'une de ses gemmes, la fileuse est debout et son fuseau touche l'enfant qui est par terre, comme encore entre deux mondes, encore inerte. Et en fait, ça reproduit le moment où la sage-femme coupe le cordon, après avoir examiné si l'enfant, comme le dit Soranos, un auteur médical de l'époque romaine, vaut ou non la peine qu'on l'élève, c'est-à-dire qu'il a toutes ses parties fonctionnent bien, il est en bonne santé. À ce moment-là seulement, elle coupe le cordon, et en somme, elle le fait entrer dans la vie, mais pas comme une simple technicienne, elle le fait sous le regard des parcs. Et l'élément qui le prouve, c'est que les auteurs médicaux d'ailleurs le souligne, il faut qu'elle utilise un brin de laine pour ligaturer ce cordon. Or, les parcs dans la littérature latine filent de la laine moelleuse. En somme, la sage-femme, sous le regard des parcs, elle va attacher par ce brin de laine le fil de la vie que les parcs vont continuer à tisser. Un vrai rite s'est accompli, l'enfant est entré dans la vie, il existe, d'où aussi son traitement funéraire.
Il existe avec des objets, Laurence dit Félix, oui. Étonnant.
Des objets étonnants, alors ça aussi, ça nous renseigne sur la manière de s'occuper des bébés. On a retrouvé dans des tombes de nouveau-nés des biberons, c'est une chose tout à fait étonnante, qu'une de vos doctorantes essaye d'analyser. Elle s'appelle Céline Dubois et elle nous raconte d'où vient et à quoi ressemble ce drôle d'objet.
Au premier abord, ils peuvent ressembler à des sortes de théières avec des anses latérales. Donc, il peut y avoir une anse ou deux anses et donc un bec qu'on appelle bec tubulaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bec plus ou moins long et plus ou moins fin permettant l'écoulement d'un liquide.
Céline Dubois, Dans notre imaginaire, autour de l'Antiquité, on imagine des femmes qui allaitent ou des nourrices qui allaitent. Alors à quoi ils servaient ces biberons-là? Est-ce qu'on a des certitudes? Est-ce qu'on a des suppositions? Est-ce qu'on a des pistes?
Au départ, il faut savoir que ces biberons, on les a pas considérés tout de suite comme des biberons, on les a considérés comme des récipients à huile pour remplir des tasses. Et c'est que très récemment qu'on a commencé à s'interroger en remarquant que ces biberons, on les retrouvait plutôt dans des tombes d'enfants et d'enfants en bas âge. Et donc là, on a commencé à se dire qu'effectivement, ça pouvait être utilisé comme étant des biberons et donc pour nourrir les enfants de manière artificielle. Ceci étant dit, aujourd'hui, on se rend compte que les auteurs anciens ne mentionnent jamais l'usage de biberons avant le deuxième siècle après Jésus-Christ, donc avec Soranos d'Éphèse, qui était un médecin grec. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que ces vases étaient réellement des biberons ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir un usage plus large? Et effectivement, aujourd'hui, on trouve ces biberons également dans des tombes d'adultes. Et on commence en fait à s'interroger si ces biberons n'étaient pas utilisés de manière exceptionnelle pour nourrir les enfants en cas de, par exemple, d'impossibilité pour la mère d'allaiter l'enfant ou d'impossibilité pour l'enfant de téter. Et peut-être également pouvaient-ils être utilisés pour les personnes malades ou pour les personnes âgées qui auraient eu des difficultés à se nourrir, et ce qui expliquerait donc pourquoi on les trouverait également en contexte de sépultures d'adultes.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'on les trouve que dans des sépultures. On ne trouve pas ces objets dans les cuisines ou dans des villas.
Alors, on a quelques rares cas de ces vases à bec tubulaire, donc ou biberons, dans contexte d'habitat en Grèce, mais ça reste très très exceptionnel. Donc, effectivement, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que également ces vases ne pourraient pas être liés au rituel funéraire, à proprement parler? Mais la question reste encore ouverte.
Dans l'article que vous signez dans ces dossiers de l'archéologie, Céline Dubois, il y a une statuette en terre cuite moulée qui représente une femme nourrissant son jeune enfant avec un biberon. Et ce biberon qui est sur cette statuette correspond bien aux biberons qui apparaissent dans les sépultures des enfants. C'est la seule représentation qu'on a d'une femme qui nourrit un enfant avec un biberon, ou c'est quelque chose d'assez classique?
Non, elle est très exceptionnelle. D'ailleurs, elle nous interroge toujours beaucoup, cette statuette, parce qu'on ne connaît pas son contexte de découverte. Elle appartient à une collection privée qui a été déposée donc au musée de Genève. En fait, elle est très exceptionnelle. Les seules représentations qu'on ait d'enfants en train de se nourrir, ce sont des femmes allaitant leurs enfants. Donc, effectivement, on se pose toujours la question de cet usage.
Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui était mis dans ces biberons que l'on trouve régulièrement dans les sépultures des petits-enfants du monde antique? Qu'est-ce qu'il y avait? Du lait de chèvre, du lait de vache, des céréales?
Pour ce qui est du monde grec, on n'a pas retrouvé de lait. On a retrouvé en fait des traces de miel et de produits fermentés, donc qui pourraient s'apparenter à de la bière. Et donc, bien sûr, ça pose la question, est-ce qu'on pouvait nourrir les enfants avec ces produits? En fait, il faut savoir que Soranos d'Éphèse, donc toujours, préconisait de donner aux enfants en sevrage des miettes de pain ramollies dans du lait, de l'hydromel ou du vin. Donc, c'est tout à fait possible que ce breuvage pouvait être utilisé pour des enfants en bas âge. Voilà, si on va un petit peu plus loin dans le contexte gallo-romain, par contre, là, il y a eu des études également qui ont été faites qui, là, ont permis de voir des traces de lait dans des biberons. Mais là, on est en contexte gallo-romain. Pour le contexte grec, on a pour le moment uniquement des traces de miel et de produits fermentés.
Est-ce qu'on connaît par rapport à l'alimentation du nourrisson, l'âge du sevrage? On connaît un tout petit peu ça ou pas du tout?
Pas très, très bien. En fait, on estime, pour le moment, on pense que c'est à peu près autour de l'âge de 6 mois. Donc, que devait se faire le sevrage. Ceci étant dit, en fait, aujourd'hui, on est tributaire des études anthropologiques à ce sujet, parce qu'en fait, à travers les études des ossements, on arrive à voir à peu près quand est-ce que les enfants auraient pu être sevrés. Donc, pour le moment, on a quelques études qui semblent plutôt indiquer un âge autour de 6 mois, mais parfois, on trouve également des enfants qui auraient pu être sevrés autour de l'âge de 3 mois. Donc, là encore, on est encore en train de réfléchir sur ce sujet.
Merci Céline Dubois, doctorante à l'Université de Fribourg. Dazen, on l'a entendu, biberon, pas biberon, nourriture liquide, solide, alcoolisée. Que sait-on encore?
On sait finalement beaucoup de choses aujourd'hui hein, sur cette alimentation du tout petit. On sait ce que nous disent les textes médicaux, comme ceux de Soranos et d'autres auteurs aussi qui s'y opposent. Soranos lui prescrit d'abord cette fameuse diète de 2 jours ou 3 jours. Je dis fameuse parce qu'elle s'inscrit dans une très très longue durée. C'est une diète de 2-3 jours qui va durer jusqu'au 18e, 19e siècle, voire même début du 20e siècle. On pense que l'enfant à la naissance doit d'abord éliminer la nourriture intra-utérine et que la mère doit se reposer. Parce qu'on constate qu'elle produit un lait particulier, ce que nous on appelle colostrum et qu'on sait très bon pour l'enfant, et que les anciens vont juger mauvais. On pense à une sorte de lait tourné, c'est bien la preuve que la mère a souffert, qu'il faut qu'elle se repose. Donc on va préconiser des régimes qui vont à l'encontre de la santé de l'enfant et qui ont contribué à cette forte mortalité infantile, comme cette diète de 2-3 jours, où on ne donne à l'enfant que de l'eau miellée. Le miel aussi est potentiellement dangereux, et l'eau encore plus. Et par la suite, on va introduire des nourritures solides. Et ça, on le sait notamment grâce à ces nouvelles techniques, justement d'analyse des ossements. On peut voir à quel âge l'enfant est sevré, à quel âge est-ce qu'on introduit des céréales. Et ces céréales ne sont pas bonnes non plus pour l'enfant si on les introduit trop tôt. Elles vont induire des carences. Et ces carences peuvent induire ensuite toutes sortes de troubles, y compris le rachitisme et d'autres choses aussi.
Vous parlez de nouvelles techniques, aussi nouveaux regards dans ce dossier et dans ce Babylone que vous avez préparé, Laurence Di Félix. Beaucoup de voix de femmes, ce n'est pas par hasard.
Non, ce n'est pas par hasard. Je crois que c'est un sujet auxquelles elles répondent plus facilement aussi en puisant soit dans leur expérience personnelle ou dans leur vécu d'enfant aussi. Il y a quelque chose qui se transmet de fille à mère, de mère à fille. Mais il y a aussi des hommes. Hein. Vous verrez qu'il y a deux hommes, donc Olivier de Casanova, Bernard Dedet par exemple, qui était un des pionniers pour la France proto-historique, les enfants dans la France proto-historique, qui apporte une contribution très importante. Cette histoire des femmes, elle est encore en construction. Et je tiens beaucoup à montrer combien cette histoire de la petite enfance est liée à l'histoire des femmes, comme à Stipalé. Ce sont elles qui accomplissent ce rite d'apporter l'enfant contenant leur enfant ou leur fœtus, même le produit d'une fausse couche, sur cette colline, sur ce cimetière spécialisé. C'est elles qui en font le deuil. On est dans des sociétés aussi où le deuil des femmes est différent du deuil des hommes. Elles ne peuvent pas le manifester de la même manière, mais il faut souligner que cela n'implique pas que les hommes n'ont pas souffert, n'ont pas pleuré avec elle, mais ils ne pouvaient pas le montrer de la même façon.
Plein d'articles, plein de regards à découvrir dans Dossier d'archéologie, mars-avril 2013. Antiquité et la petite enfance dans le monde grec et romain. Alimentation et santé, rite et oracle, enfants et société. Véronique Dazen, merci. Babylone du jour vous était proposé par Laurence Di Félix et Nancy Psilantis. Notre assistante de production, c'est Nicole Corpato. Marc Frochot signait la réalisation. Demain dans Babylone, l'IRM au tribunal, l'imagerie cérébrale peut-elle innocenter un accusé ? Vous écoutez Espace 2, merci. Il est 10h.